Bonjour et bienvenue à tous. Alors, la semaine dernière, nous reprenions le cours de notre enquête au long cours sur la question de savoir si la Chine est encore une civilisation, en rappelant quelques vérités fondamentales, dont la première est que toute civilisation, aussi ancienne fut-elle, est mortelle. De même que tout être humain, vous et moi, est sujet à la mort. C'est ce qu'écrivait Paul Valéry en 1919 dans « La crise de l'esprit », ce texte fameux que je citais la dernière fois. Ainsi donc, même la Chine, qui se vante de ses 5000 ans de civilisation continue, soi-disant, n'est pas pour autant immortelle. Et pour peu qu'on soit convaincu que la civilisation chinoise est peut-être mortelle, mais qu'elle ne risque pas de mourir maintenant, précisément au moment où elle est au sommet de sa puissance, eh bien, voici une autre vérité première que l'on trouve formulée sur tous les tons dans les sources les plus anciennes et les plus diverses de cette même civilisation chinoise. C'est précisément, c'est ça, cette vérité première, lorsqu'on est au sommet de sa puissance, qu'on est susceptible d'en redescendre. Et c'est donc ce qui est exprimé dans ce chapitre 16 du Laozi que vous avez eu un peu le temps de regarder, de vous remettre en mémoire, de relire, de méditer. Alors, je rappelle ces deux vers que j'ai surlignés en jaune. « Wan wu bing zuo » Wu yi guan fu, fu wu yun yun, ge fu gui qi gen. Donc, les 10 000 êtres, c'est-à-dire tout ce qui existe, ping zuo s'active tous ensemble à qui mieux mieux, alors que moi, je reste à observer ou à contempler leur retour. C'est-à-dire, donc, le sage, c'est celui qui se met à l'écart, en retrait de la foule, les foules sentimentales, et qui observe donc ce processus naturel et inéluctable du retour. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez l'impression de progresser, d'aller de l'avant, en réalité, vous êtes déjà en train d'être dans cette boucle du retour. Et le verset suivant vous dit « Car tout être qui s'applique à proliférer à qui mieux mieux, en fait, chacun de ces êtres fait retour à sa racine. » Alors, donc ça, ce thème du fou, c'est-à-dire donc du retour, c'est quelque chose de très important dans le Laozi. Et vous verrez que le discours officiel actuel en fait un autre usage. Alors, des avertissements répétés se trouvent donc dans cette littérature chinoise ancienne contre la tentation de ce que les Grecs appelaient hubris, qui se traduit le plus souvent par la notion de démesure. Alors, l'hubris désigne un comportement ou un sentiment en général violent qui est inspiré par des passions, en particulier l'orgueil et l'arrogance. Mais l'hubris désigne également cet excès de pouvoir et ce vertige qu'engendre un succès trop continu. C'est-à-dire au bout d'un moment où vous gagnez tout le temps, vous êtes tout le temps en position de victoire, de conquête, eh bien vous vous enhardissez et vous imaginez que vous êtes devenu invincible. Et c'est justement ce vertige qui vous prend, c'est cette hubris qui vous prend au moment où vous êtes ivre de puissance, qui entraîne mécaniquement ce que les Grecs appelaient la némésis ou la destruction, l'anéantissement, autrement dit le contraire de ce que vous étiez en train de faire. Et donc les Grecs, dans leur sagesse, opposaient à l'hubris la tempérance et la modération, qui est avant tout connaissance de soi et de ses limites. Et c'est en quoi les Grecs ici rejoignent un peu nos braves Confucéens. Alors, dans la Chine ancienne, l'une des illustrations les plus frappantes et les plus originales de l'hubris se trouve dans le livre des mutations, en chinois, le Yi Jing. Cet ouvrage assez unique en son genre qu'on connaît ici plutôt sous le titre de Yi Qing, hein, Yi Qing, c'est-à-dire donc le livre canonique des changements ou des mutations. Ici à l'image, vous avez un diagramme des 64 hexagrammes du Yi Jing. Les 64 hexagrammes, c'est-à-dire des figures à six traits, envoyé en 1701 par le jésuite français Joachim Bouvet au philosophe allemand Leibniz. Leibniz, dont on sait qu'il s'est montré très intéressé justement par cette idée d'alternance de traits pleins et brisés. Vous avez ici en haut de l'image les huit trigrammes de base qui sont formés par toutes les combinaisons possibles justement de ce trait plein qu'on appelle aussi trait yang et des traits brisés, hein, donc avec une coupure au milieu qu'on appelle également trait yin. Et donc si vous combinez cette alternance de traits pleins et de traits brisés sur trois niveaux, hein, vous obtenez donc ces huit trigrammes de base qui, combinés entre eux, multipliés par eux-mêmes, donnent donc les 64 hexagrammes, c'est-à-dire sur six lignes. Alors, au milieu de l'image, vous avez le tout premier hexagramme, qu'on appelle l'hexagramme Tian, qui est composé entièrement, comme vous le voyez, de traits pleins, hein, c'est-à-dire de traits yang. Alors, je rappelle rapidement que ce Yi Jing, c'est un ouvrage tout à fait unique. Ça ne m'arrive pas souvent de dire que certaines choses sont uniquement chinoises. Eh bien là, vous avez quelque chose qui est unique en son genre. Un ouvrage qui s'organise autour de diagrammes. Ces diagrammes étant donc les 8 trigrammes et les 64 hexagrammes. Et autour de ces figures, de ces diagrammes, s'organisent des textes. Alors vous avez d'abord la première strate de texte, ce sont les sentences divinatoires qui portent sur les figures prises dans leur ensemble et ensuite sur chacune des lignes de ces figures. Et la lecture de ces lignes, donc six lignes pour les hexagrammes, se fait à partir du bas. Hein, c'est-à-dire on commence par le bas et on remonte petit à petit. Et ensuite, vous avez autour de cet ensemble divinatoire, parce que le livre des mutations, c'est d'abord en fait une sorte, pour aller vite, de manuel de divination. Autour de cet ensemble divinatoire se sont agrégés des textes qui sont de véritables textes, c'est-à-dire en fait des commentaires et des considérations sur l'aspect à la fois divinatoire, symbolique, graphique de ces figures. Et on peut dire que dans toute la tradition intellectuelle chinoise, je ne dis pas qu'elle a duré 5000 ans, je dis qu'elle a plus de 2000 ans d'histoire, dans toute cette tradition intellectuelle chinoise, tout ce qui a compté dans cette tradition, c'est-à-dire tous les grands penseurs, se sont tous penchés et se sont tous intéressés au livre des mutations. Vous n'en avez pas un qui ne soit pas allé de son commentaire sur cet ouvrage. Alors, donc, je reviens à mon premier hexagramme, qui est donc composé de six lignes qui sont toutes yang. Yang qui correspond donc au chiffre 9 auquel il est fait référence dans les sentences divinatoires. Le chiffre 6 étant associé au yin, c'est-à-dire donc au trait brisé. Alors, je signale que l'hexagramme tien, premier hexagramme, est immédiatement suivi de son opposé, c'est-à-dire l'hexagramme kun, qui est composé, lui, uniquement de traits brisés, c'est-à-dire de traits yin. Vous remarquez quand même, c'est le yang qui vient en premier. Bon. Alors, donc, que nous disent ces sentences divinatoires? Alors, donc, nous commençons par la première ligne, c'est-à-dire la ligne du bas. Bon. Chu jiu, qian long wu yong. Donc, neuf, c'est-à-dire yang, au début, en première ligne. Donc, dragon caché. Qian, c'est le fait d'être sous l'eau. Il est immergé, on ne le voit pas. Ouillon, ne pas agir. Ensuite, deuxième ligne, toujours à partir du bas, donc jiu er. Jian long zai tian, li jian da ren. Donc, neuf, en deuxième ligne, on voit le dragon dans le champ, ou c'est-à-dire au niveau du sol. Il était caché sous l'eau, maintenant il apparaît au niveau de la terre ou du sol. Il est avantageux de voir le grand homme. Je vous laisse interpréter, bon, à vous de comprendre à votre manière. Tio San, 9 à la troisième ligne. Junzi, Zhongri Qian Qian, Xi Ti Ruo, Li, Wu Jiu. Donc, l'homme de bien, là nous avons en fait un terme qui vient du vocabulaire confucéen, donc le Junzi, c'est littéralement le fils de prince, mais dans le vocabulaire confucéen, ça désigne l'homme noble moralement, donc l'homme de bien s'active tout le jour et le soir reste vigilant, il reste sur ses gardes. Li, danger, mais Wu Jiu, pas de faute, c'est-à-dire pas de motif de blâme. Jiu Si, Huo Yue Zai Yuan, Wu Jiu. Donc, neuf en quatrième ligne. Le sujet ici n'est pas explicité, mais on imagine que c'est toujours notre brave dragon. Il s'élance dans les profondeurs, pas de faute, pas de motif de blâme. Alors là, ce qu'il faut signaler, c'est que entre la troisième ligne et la quatrième ligne, nous sommes passés donc d'un trigramme à l'autre. Nous sommes passés du trigramme inférieur au trigramme supérieur. Et là, ce passage, il est toujours délicat. C'est pour ça que vous avez en troisième ligne, on vous signale, il faut rester sur ses gardes parce qu'il y a danger même s'il n'y a pas de faute. Et en quatrième ligne, on voit le dragon qui s'élance. On l'avait vu immerger, on l'a vu pointer son nez, et là maintenant, ça y est, il se lance en quatrième ligne, et il n'y a toujours pas de faute. Jiu Wu, donc 9 en cinquième ligne, Fei Long Zai Tian, Li Jian Da Ren. Donc le dragon, cette fois, vole dans le ciel, il est en plein vol dans le ciel. Il est avantageux de voir le grand homme. Shangjiu, ligne d'en haut, la ligne supérieure, toujours 9. Kanglong Yu Hui, dragon orgueilleux, c'est-à-dire de dragon dans l'hubris. Yu Hui, aura à son repentir. Donc, vous avez une terminologie ici divinatoire, hein, vous avez certains termes qui reviennent. Par exemple, le li, qui veut dire profitable, avantageux. L'autre li, qui s'écrit autrement et qui veut dire le danger. Vous avez la formule récurrente aussi de wujio, hein, c'est-à-dire donc attention, mais pour l'instant, ça va, il n'y a pas de faute. Hein. Et vous avez aussi le terme hui, qui là est un avertissement très fort, hein, c'est-à-dire là, vraiment, vous allez vous en mordre les doigts, hein, vous allez le regretter. Et enfin, vous avez le yongjiu, qui est en fait une sentence qui ne concerne justement que cet hexagramme tien, il ne concerne pas les autres hexagrammes. Il vous dit ceci, tien qun long wu shou, ji. Donc l'usage de ce yang, hein, de ces traits pleins, hein, c'est que la conclusion, c'est que on voit une bande, une foule de dragons sans tête. Et là, c'est ti, c'est fast. Autrement dit, là, vous avez dans la ligne, la dernière ligne, la ligne supérieure de cette figure tien, qui évoque justement l'ascension irrésistible d'un dragon. La dernière ligne qui est un avertissement tout à fait formel et la formule de conclusion qui vous dit qu'au fond, hein, il vaut mieux que le dragon perde sa tête. C'est là que ça redevient faste. Donc, vous avez on en reste sur cette image d'une foule de dragons décapités. Hein, je vous laisse méditer ça. Et enfin, rappelez-vous cette magnifique leçon, on pourrait dire géopolitique, du chapitre 61 du Laozi que nous lisions la dernière fois. Alors j'emploie le mot géopolitique parce qu'il s'est trouvé que j'ai passé mon samedi dernier à ces rencontres capitales qui se passaient sous la coupole de l'Académie, où j'étais dans un panel de géopoliticiens qui, évidemment, se soucient beaucoup de l'avenir du monde et en particulier l'avenir de la Chine. Et donc là, je me venge un peu parce que, évidemment, moi, j'étais la seule à ne pas être géopoliticienne et j'ai passé toute ma séance à m'en excuser. Mais enfin, bon, donc maintenant, je me venge puisque maintenant, c'est moi qui ai la parole. Et donc, je vous rappelle ces deux lignes du chapitre 61 du Lao Tzu, donc qui commence ainsi. Donc, Ta Guo Zhe Xia Liu, Tian Xia Zhe Jiao, Tian Xia Zhe Pin. Donc, ce qui fait un grand pays, c'est qu'il se tient au plus bas, là où converge l'eau, les cours d'eau, là où se rencontrent le tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel, le monde entier, là où se trouve le féminin, le principe femelle. Retenez ça. Hein. Ce chapitre 61 se termine ainsi, donc « Fu liang zhe, ge de qi so yu, da zhe yi wei xia ». Donc, Vous avez dans le corps de ce chapitre 61 donc une considération sur les grands pays qui ont tout intérêt à se laisser conquérir par des petits pays, et les petits pays qui ont eux aussi intérêt en fait à se gagner les grands pays. Donc la dernière phrase, je la résumais de manière assez prosaïque la dernière fois en disant c'est un arrangement win-win, donc gagnant-gagnant. Donc les deux, les grands pays et les petits pays, ils trouvent chacun donc ce qu'ils désirent, ils trouvent chacun leur intérêt, mais c'est aux grands pays de se mettre plus bas que les autres. Et si vous vous souvenez, j'ajoutais jeudi dernier ce commentaire un peu ironique, je disais « à bon entendeur, salut ». Eh bien, figurez-vous qu'il a été entendu ce message. Il s'est produit une espèce de miracle. Le message a été entendu par nul autre que le président Xi Jinping, qui a déclaré pas plus tard que lundi dernier à l'ASEAN. L'ASEAN, c'est l'Association of Southeast Asian Nations, c'est-à-dire l'association des nations de l'Asie du Sud-Est. Donc lundi dernier, l'ASEAN fêtait les 30 ans de la participation de la Chine à cette association. Et à cette occasion, donc, le président Xi Jinping a déclaré ceci. La Chine s'oppose résolument à l'hégémonisme et à la politique de puissance. Elle souhaite maintenir des relations amicales avec ses voisins et cultiver avec eux une paix durable dans la région. Elle ne cherchera absolument pas à exercer de domination et encore moins d'intimidation sur ses voisins plus petits. Bon, alors, c'est proprement incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben, c'est comme si le président citait tout simplement ce passage du Lao Tzu. Alors, certes, ces propos sont très rassurants, venant du grand dragon chinois, donc pas forcément celui du Yi Jing, mais pourquoi pas. Mais ce sont des propos qui risquent de ne pas vraiment convaincre les petits voisins en question. Alors, vous avez la Malaisie, le Vietnam, les Philippines, et j'en passe, qui se font tous les jours, en fait, rembarrer, intimider par les frégates chinoises qui patrouillent en mer de Chine et qui revendiquent la possession de ce qu'on appelle les cailloux, c'est-à-dire ces petites îles inhabitées que sont les îles Spratleys ou les îles Paracel. De fait, la déclaration très, comment dire, rassurante du président Xi Jinping s'est heurtée immédiatement à la protestation véhémente des Philippines qui venaient tout juste enfin, de se faire rembarrer précisément par ces frégates chinoises. Et c'est intéressant de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire d'aller au Vietnam et recueillir l'avis des Vietnamiens sur la question, qui ne sont pas franchement rassurés par ces envolées rhétoriques. Mais alors, toujours est-il que ce qu'il faut retenir dans le processus décrit dans le Lao Tzu, c'est-à-dire c'est précisément quand on atteint le sommet de sa puissance qu'on ne peut que décliner. Ce qui est remarquable, c'est que c'est un processus tout à fait naturel. Il n'y a absolument aucune notion de châtiment ou de punition morale. C'est un processus inéluctable parce qu'il est naturel et c'est ce que nous rappelait ce chapitre 9 du Lao Tzu et particulièrement cette phrase surlignée en jaune, donc « Fu gui er jiao, zi yi qi jiu », donc « tirer orgueil de la richesse, de la prospérité et des honneurs, c'est amener de soi-même, le zi est important ici, de soi-même le tio, hein, la faute. De manière intéressante, vous retrouvez ici un terme, le terme de tio, que vous voyez répété dans le Yijing. Donc, nous avons ici en Europe très souvent la tendance à vouloir classifier les courants de pensée de la Chine antique en écoles. On est sans doute là influencé par notre référence à la Grèce. En réalité, vous voyez ici qu'il y a en fait des passages, enfin des emprunts de phrases et même de termes d'un texte à l'autre, hein, d'un texte d'une tradition à une autre tradition. Alors, le zim ici me paraît intéressant, le de soi-même, puisqu'il fait référence à une notion tout à fait fondamentale dans le Laozi, à savoir cette notion de ziran, c'est-à-dire ce qui advient de soi-même ainsi, hein, c'est-à-dire ce que en latin on appellerait le sponte sua, c'est-à-dire donc ce qui advient de son propre mouvement, hein, de sa propre nature. Or, dans la Chine d'aujourd'hui, ce processus naturel, ou on pourrait dire même mécanique, de déclin, se traduit par le phénomène d'involution, ce neijuan dont nous parlions la dernière fois. Donc, je vous disais que le neijuan, c'est véritablement le dernier concept à la mode à Pékin, et qui traduit donc cette sensation d'épuisement, ou on pourrait dire en bon français de burn-out, que l'on éprouve à force de pédaler sans fin, comme un hamster sur sa roue. Ça, je vous avoue qu'en tant que professeur au Collège de France, j'ai aussi quelquefois cette impression d'être un hamster qui pédale sans arrêt dans sa roue, sans jamais avancer, bien sûr, hein, bon. Et surtout sans jamais voir d'aboutissement ou même d'amélioration à sa condition. Et il semblerait que cette sensation d'épuisement ou d'être arrivé à bout de son carburant, hein, c'est ça le burn-out, hein, elle est, semble-t-il, partagée largement en Chine par la génération qui est née dans les années 1980 et 90. En anglais, c'est ce qu'on appelle les millennials, ou en français, on l'appelle quelquefois la génération Y, qui fait suite à la génération, là aussi en bon français, des baby boomers, dont je fais partie, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans le baby boom de l'après-deuxième guerre mondiale. Alors, cette génération Y, ou cette génération des millennials, correspond en Chine aux années de la sortie du maoïsme, les années 1980, et de la réforme économique et du virage capitaliste lancé par Deng Xiaoping dès les années 90. Donc, ce concept de Neijuan est devenu maintenant tellement viral que des sociologues chinois s'en sont emparés pour tenter de l'analyser. La dernière fois, nous parlions de ce sympathique monsieur qui s'appelle Xiang Biao, qui est né en 1972. Donc lui, il est juste en fait entre la génération des baby boomers et celle des millennials. Hein, bon, il fait une carrière absolument éblouissante. Il a fait ses études à l'université de Pékin, et il est maintenant, il a une position de professeur, d'une chaire de professeur à Oxford, et une position de chercheur à l'Institut Max Planck en anthropologie sociale à Halle, en Allemagne, et non à Berlin, comme je l'ai indiqué par erreur la semaine dernière. Alors, ce monsieur, en fait, s'est intéressé à ce phénomène du Neijuan, qui qu'il diagnostique comme ce qu'il appelle la mentalité du dernier bus, c'est-à-dire la peur, panique, d'avoir raté le dernier bus. Ça, je crois qu'on a tous eu cette expérience. Et en tant que Parisien, je ne le fais plus maintenant parce que c'est trop dangereux à mon âge, mais j'ai beaucoup couru après les bus. Hein, donc je vois très bien de quoi il parle. Hein. Bon. Alors, ce monsieur Xiang Biao donc, dit que cette compétition féroce a commencé donc, dans les années 90, c'est donc précisément avec cette réforme économique de Deng Xiaoping. Et la raison pour laquelle, c'est lui qui continue, hein, la raison pour laquelle les gens soulèvent cette question de l'involution ou du Neijian maintenant, hein, c'est parce que le dernier bus est déjà passé. Alors, il dit ceci, donc les couches les plus basses de la société sont encore dans l'espoir de changer leur destin, hein, c'est-à-dire ils ont encore ils y croient encore, enfin en quelque sorte, hein, à pouvoir changer leur destin, mais ce sont en fait les classes moyennes et supérieures, hein, qui en fait ont un peu cessé, se sont résignés à ne plus regarder vers le haut, hein, parce que ils sont marqués par une crainte profonde de tomber, hein, de décliner. Et en fait, leur crainte la plus grande, c'est peut-être de perdre ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont déjà. Je ne vais pas faire des rapprochements dangereux, mais enfin, évidemment, c'est un phénomène que nous observons aussi dans nos sociétés capitalistes, hein, d'une certaine manière. Des mouvements comme celui des Gilets jaunes traduit aussi cette peur, hein, cette peur de perdre l'acquis, hein, et cette peur d'avoir raté le dernier bus. Hein. Bon. Ce monsieur Xiang Biao attribue ce phénomène au système capitaliste, hein, et donc à la compétition féroce qu'il induit, notamment dans les familles chinoises, hein, donc on disait la dernière fois que ces familles chinoises, elles sont comme des hamsters, enfin qui courent éperdument dans leur cage, hein, pour essayer d'assurer l'éducation de leurs enfants quand ils en ont. Hein. Et c'est un mécanisme dont M. Xiang Biao dit que on ne connaît ni la fin ni la finalité. C'est un mécanisme présente, selon lui, en Chine, une particularité, hein, par rapport aux autres sociétés capitalistes, c'est son homogénéité. Hein. Et il dit lui-même qu'un des prérequis les plus importants de ce Neijuan, de cette involution, c'est la non-différenciation. Hein, c'est-à-dire que chacun se fixe les mêmes buts, hein, parce qu'autrement, si vous êtes malheureux au travail, vous pourriez imaginer de faire autre chose. Eh bien non, en fait, en Chine, chacun est poussé à suivre le même chemin, à savoir donc toujours gagner plus d'argent, acheter une maison de plus de 100 mètres carrés, avoir une voiture, fonder une famille, etc. Donc la route est très bien balisée, chacun est parfaitement intégré et les gens se battent tous pour la même chose à l'intérieur de ce marché. Et récemment, je retrouvais un collègue de Singapour qui me dit qu'en fait, à Singapour, vous avez exactement le même type de phénomène. Et il me rappelait qu'à Singapour, vous avez les fameux 5 C de Singapour, c'est-à-dire cash, car, credit card, condominium and country club. Donc là, en fait, ça fait même plus de 5 C. Hein, c'est bon. Alors donc, cash, donc l'argent, ça c'est fondamental. Hein. Sans argent, vous n'existez pas à Singapour, bon, ni ailleurs d'ailleurs. Car, la voiture, bien sûr, si possible une grosse voiture, une BMW. Hein, bon, credit card, alors ça évidemment un ustensile indispensable, hein, la carte de crédit. Condominium, alors ça c'est plus spécifique à Singapour. c'est d'avoir donc là avoir une maison, c'est pratiquement mission impossible à Singapour vu l'étendue du territoire, mais le tout c'est de se retrouver dans un appartement de plus de 100 mètres carrés dans un condominium, hein, c'est-à-dire donc un de ces grands ensembles de luxe, et avoir aussi sa carte du country club, hein, c'est-à-dire donc une club de golf, de choses comme ça. Et ça, je pense que c'est là aussi plus spécifique à Singapour, mais ça gagne aussi la Chine continentale. C'est un héritage, pour le coup, des Britanniques, hein, je pense, à Singapour. Bon, donc voilà. Donc là, vous avez votre programme et vous n'avez plus qu'à pédaler très fort pour essayer d'atteindre ça. Mais alors, le problème, c'est que vous apercevez que même en pédalant très fort, en vous épuisant, vous n'y arrivez pas. Et à terme, pour un pays comme la Chine, il y a ce danger dont je parlais la dernière fois, à ne produire que du même. Alors, après, on demande à ce monsieur Xiang Biao si le confucianisme a quelque chose à voir avec ce phénomène d'involution. Alors là, notre sociologue est un petit peu moins sûr de lui. Il répond que la culture confucéenne est sans doute pour quelque chose dans cette tendance au conformisme, hein, au conformisme social. Mais le principal facteur est en l'occurrence la lutte pour la survie induite par le système capitaliste. Donc là, ce qui est intéressant dans la réponse de Xiang Biao, c'est que ça concerne justement à la fois des territoires comme la Chine populaire, la Chine continentale, mais aussi Singapour, hein, qui lui aussi a voulu se confucianiser, hein, en quelque sorte. Alors, puisque je l'ai sous la main, à propos du bon vieux confucianisme, vous avez un numéro de la revue Histoire qui vient de sortir et qui est consacré donc à l'idéologie Confucius. Je trouve le titre intéressant. C'est pas moi qui l'ai suggéré, même si j'ai participé à ce numéro. Mais l'idéologie Confucius, c'est quelque chose justement qui, en Chine et les territoires sinisés, vient se combiner avec l'idéologie et le système capitaliste. Alors, donc, on a bien compris que ce phénomène de burn-out touche principalement une jeune génération, c'est-à-dire donc éventuellement des étudiants, ceux qui sont en bout de cette génération des millennials, mais aussi des jeunes actifs. Et on a vu le rapport qu'il y a entre ce phénomène d'involution de Neijuan avec ce qu'on a appelé la culture Song, c'est-à-dire la culture de la dépression, de la démotivation, et cet autre mouvement, enfin mouvement, oui, on peut appeler ça un mouvement, même si justement c'est le refus du mouvement, qui s'appelle Trangping, ça veut dire donc rester couché. Alors, ça, évidemment, ça ne manque pas de choquer quand on est resté sur l'image d'une Chine conquérante, quand on regarde les chiffres de la croissance de l'économie chinoise. Hein, bon, elle est restée longtemps à deux chiffres, et est restée longtemps à deux chiffres, ce chiffre de croissance, mais maintenant, bon, il n'est plus qu'à un chiffre, mais quand même, enfin, ça reste assez impressionnant. Et en contraste avec tout ça, vous avez donc une génération qui se revendique du principe de rester couché. Et vous avez même la définition de cette philosophie que je vous montrais la dernière fois et qui préconise d'arrêter de s'échiner au travail, de trimer, de s'échiner à gagner de l'argent, à se faire un sang d'encre, à s'abîmer la santé, hein, et donc de son propre mouvement, hein, 主动, Donc là, vous avez de nouveau cette notion de zi, hein, c'est-à-dire de sa propre initiative, di yu wang, hein, c'est-à-dire donc rabaisser ou réduire ses désirs et ses aspirations, hein, c'est cette philosophie que revendique donc ce principe de rester couché. Alors, l'idée justement de réduire les désirs et ses aspirations, c'est tout à fait ce que vous lisez dans le Laozi. Dans le Laozi, vous avez cette formule récurrente aussi du kua yu, c'est-à-dire donc la sagesse consiste à avoir peu de désirs. Parce qu'il est évident que le désir, c'est quelque chose, c'est un carburant très puissant qui est évidemment, comment dire, encouragé, alimenté sans cesse dans notre régime capitaliste et consumériste. Alors évidemment, à l'approche de Noël, on est bien placé pour savoir qu'on on active ce carburant à plein bidon. Hein, c'est bon. Naturellement, c'est tout ça, bien sûr, qui cause tous nos soucis, parce qu'évidemment, pour acheter toujours plus, ben, il faut gagner toujours plus, et pour gagner toujours plus, il faut pédaler toujours plus fort. Hein, donc vous avez une espèce de cercle vicieux que je figurais justement sous l'image de cette roue du hamster. Ici, c'est une image que je vous montrais la dernière fois. Donc, vous avez sous cette rangée de chats couchés. Hein, il y en a même un qui s'est mis un sac sur la tête pour ne rien voir, donc pour dormir plus tranquille. Donc, vous avez en dessous la formule donc Xin Pu He Zuo Yun Dong, c'est-à-dire le mouvement, un mouvement nouveau de non-coopération. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon sens, ça ressemble beaucoup à de la résistance passive. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça va jusqu'à la désobéissance civile, parce que ça n'existe pas en Chine, pas encore en tout cas, mais certes, on pourrait dire que c'est de la résistance passive. Alors, je vous montrais la dernière fois cette image qui résume un petit peu justement cette position sang, c'est-à-dire donc sang, ça veut dire être en deuil, hein, c'est-à-dire avoir perdu quelque chose ou quelqu'un du fait de la mort, hein, et ça désigne plus largement en fait cet état d'esprit dans lequel vous êtes justement quand vous avez perdu un être cher, hein, c'est-à-dire de dépression, je crois, démotivation, démoralisation complète. Vous n'avez plus envie de rien, vous n'avez plus envie de vivre. Et donc, la position de cet acteur donc, très connu, qui s'appelle Keyo, on l'a appelé le Keyo Trang, c'est-à-dire donc d'être affalé comme ça, comme Keyo dans cette série qui date de 1993, où vous voyez quelqu'un qui n'a plus de force, qui n'a plus envie de rien. Et donc ça a généré toute une culture. On parle de la musique sang, c'est-à-dire du thé sang, tout ça, ce sont des produits de cette culture qui circulent sur les réseaux sociaux en Chine et qui traduisent donc cette sensation de fatigue qui frise la paralysie en fait, et qui est générée par justement une trop de travail acharné à force de vouloir réussir, et avec la constatation que ce travail acharné en fait ne mène à rien, hein, il n'apporte pas le succès assuré, hein, et en même temps, hein, On est bien conscient que, en tout cas dans la société chinoise, le fait de laisser tomber, de se retirer de ce système, n'est pas non plus une option. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes trop fatigué pour rester debout, mais en même temps, vous ne pouvez pas bouger et aller ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à part Xiang Biao, un autre sociologue chinois de renom s'est intéressé à ce phénomène du tangping, du rester couché. C'est ce monsieur qui s'appelle Sun Liping, qui est né en 1955, donc la même année que moi. Donc il fait partie justement de ce que nous, nous appellerions les baby boomers, mais en fait c'est quelqu'un qui est né peu après donc l'instauration de la République populaire de Chine en 1949. Donc il fait partie de cette génération qui s'est pris en pleine figure donc tous les mouvements du maoïsme et en particulier la révolution culturelle. C'est quelqu'un qui avait 20 ans en 1975. Bien. Alors, ce monsieur, en fait, est un très éminent professeur de sociologie à la très prestigieuse université Tsinghua de Pékin. Et c'est aussi on pourrait dire, un intellectuel public en Chine, comme il y en a très peu, ou comme il en reste très peu en Chine, et qui est connu pour ses prises de position assez libérales, au fond, sur des problèmes politiques et sociétaux. Alors, il est un des rares, justement, intellectuels publics à arriver à s'exprimer encore, même si on l'entend de moins en moins, parce que, comme beaucoup de, enfin, même la plupart des intellectuels, des jeunes, des étudiants, etc., des universitaires, ils s'expriment par réseaux sociaux interposés. Donc, ils publie en fait des posts sur WeChat qui en fait sont assez suivis parce qu'ils s'expriment dans un langage assez direct et assez clair. Nous allons voir aujourd'hui un post qu'il a mis sur WeChat en juin 2021, donc c'est tout récent, et qui s'intéresse justement à la question du Trangping. Alors, je reviens un petit peu sur les photos précédentes. Vous avez une traduction intégrale de ce poste due à ce monsieur qui s'appelle David Ownby et qui est un collègue canadien de l'Université de Montréal. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement bilingue anglais-français et qui parle aussi couramment chinois et qui anime donc un blog qui s'appelle Reading the China Dream, c'est-à-dire donc lire le rêve chinois. Donc c'est un blog qui est entièrement en anglais, mais c'est quand même un blog qui rend un service public assez considérable parce que David Ownby traduit justement en anglais des intellectuels chinois actuels qui essayent donc de s'exprimer à partir de points de vue extrêmement différents. Donc il ne fait pas de distinction. En tout cas, vous avez accès à toute la gamme des opinions, depuis ceux qui sont des idéologues du pouvoir en place, qui sont vraiment des propagandistes professionnels, jusque aux intellectuels les plus critiques. Et c'est quelqu'un donc dont vous voyez qu'il fait partie du Centre d'études de l'Asie de l'Est de l'Université de Montréal et que j'ai invité déjà l'année dernière au Collège de France, mais il n'a pas pu venir pour cause de Covid. Donc on va revenir à la charge en juin 2022, donc en juin prochain. Donc j'espère qu'il va pouvoir venir à Paris, passer tout le mois de juin et nous donner 4 conférences. Et c'est aussi quelqu'un à qui j'ai fait appel pour contribuer à ce volume collectif qui est paru il y a quelques mois chez Gallimard, qui s'intitule « Pensée en Chine », où la contribution de David Ounbe est une présentation et une traduction d'un texte de cet autre intellectuel chinois public qui s'appelle Qin Hui et qui, lui, est né en 1953. Donc beaucoup de ces intellectuels en vue sont de cette génération, donc des années 50, nés dans les années 50. Alors, je reviens donc à ce poste qui s'intitule donc Tang Ping, Jue Fei Jin Jin Fa Sheng Zai Di Cheng, c'est-à-dire donc le phénomène de rester couché ne se limite absolument pas aux couches basses de la société, comme on pourrait le croire. Alors, je vous résume un petit peu le contenu donc de ce poste. C'est que justement, on pourrait croire que cette mode de rester couché, ça concerne en fait des jeunes urbains un petit peu fatigués. Mais en réalité, et ça c'est l'analyse du sociologue Sun Liping, c'est la préoccupation d'une très grande partie de la classe moyenne chinoise, et c'est pour ça que les dirigeants devraient y faire attention. Et cette classe moyenne chinoise, c'est précisément celle qui fait de moins en moins d'enfants et qui est donc, je ne pourrais pas dire elle est responsable, mais elle est la cause de ce déclin démographique extrêmement brutal que vous observez en Chine actuellement et qui peut être préjudiciable à la montée en puissance chinoise. Donc le message de Sun Liping, c'est en gros que le miracle économique chinois n'est peut-être pas durable. Évidemment, on ne sait pas trop si ce message s'adresse aux dirigeants du parti ou bien aux grands patrons du capitalisme chinois. Mais au fond, finalement, ça importe peu parce que, comme vous savez, certains comme Jack Ma sont à la fois grands patrons capitalistes et membres du parti. Donc, bon, ça ne change pas énormément de se demander si c'est l'un ou si c'est l'autre. En tout cas, voilà, je vous ai reproduit à l'image le tout début donc, de ce poste, parce que comme ça, vous voyez un petit peu le style de ce qui circule sur les réseaux sociaux chinois. On vous dit donc que récemment, cette mode du rester couché est devenue en fait une sorte d'expression virale sur les réseaux sociaux, en même temps que le Neijuan, c'est-à-dire donc l'involution. Et là-dessus, il y a des gens donc qui ont composé cette petite comptine populaire, ou quelque chose qui sonne comme une comptine populaire, un miao. Alors je vous lis donc Yi Deng Ren, Pin Dian Niang. Les gens de la première catégorie comptent sur papa et maman. Ardengren, Ping Guanxi. Donc les gens de la deuxième catégorie comptent sur les Guanxi, c'est-à-dire les relations. Sandengren, Ping Tou Nao. Donc les gens de la troisième catégorie, alors là ça va en descendant, hein, c'est le contraire du I Ching, on ne lit pas de bas en haut, on lit de haut en bas. Hein, donc les gens de la troisième catégorie comptent sur leur cerveau, hein, sur leur matière grise. Si deng ren, pin qi li, la quatrième catégorie compte sur sa force physique. Donc là vous avez la distinction entre le ciboulot, hein, qui est quand même un peu supérieur au biscotto. Hein, bon, donc, et là, cette dualité, nous allons la retrouver bientôt. Bon. Alors, Wu Deng Ren, Pin Xing Ming, donc les gens de la cinquième catégorie, Pin Xing Ming, ça veut dire littéralement, ils jouent leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils mettent leur santé mentale et physique en danger, hein, dans la lutte pour la survie. Hein. Bon, Mo Deng Ren, Ping Tang Ping. Alors, les gens de la dernière catégorie, la plus basse, hein, ils ne peuvent compter que sur le fait de rester couché. Bon, et la conclusion, hein, c'est que donc. Le sens de cette petite comptine, hein, c'est que ce phénomène du tangping, du rester couché, hein, ne concernerait que les couches les plus basses, hein, c'est-à-dire celles qui n'ont pas d'autres solutions, alors que justement Monsieur Sun Liping donc prétend que en réalité, et c'est ça le danger, c'est que ça touche en fait les classes moyennes, hein, sur lesquelles s'est bâti justement toute la réforme économique en Chine depuis les années 90. Hein, donc bien, je suis obligée de m'arrêter là. Nous poursuivons donc notre exploration la semaine prochaine. Pour l'instant, donc, restez couchés, surtout avec le froid qui fait. Et donc, à la semaine prochaine, éventuellement assis. Bon.